Bonjour, toujours en direct du congrès de Senios de l'UNSEN. La radio CGT de Nice reçoit aujourd'hui Karine Prudhomo, élue CAPA pour les assistantes sociales de l'Académie de Paris. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors Karine, est-ce qu'il y a beaucoup d'assistantes sociales en France dans les établissements scolaires ?
Alors non, il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit corps et malheureusement, il n'y en a vraiment pas suffisamment.
Est-ce que vous avez des revendications particulières ?
Alors oui, on a des revendications particulières. Elles sont, pour le moment, on est... Je vous dis deux mots hein, sur les élus CGT assistants sociaux, parce qu'en fait, on est très représentés dans deux académies. L'Académie de Paris, où on a 8 postes sur 8 d'élus en CAPA.
Bravo.
Et sur l'Académie d'Aix-Marseille, où les collègues ont réussi à obtenir 3 postes sur 4. Donc
C'est un bon départ
et c'est déjà deux académies phares du coup pour les assistantes sociales et qui souhaitent se mobiliser, qui souhaitent se syndiquer, qui adhèrent aux valeurs de la CGT, c'est très porteur. C'est deux académies qui sont très porteuses.
Et donc on y reviendra plus tard, donc c'est un bon espoir pour les prochaines élections.
Exactement, on en reparlera tout à l'heure. Donc pour revenir à ta question sur les revendications principales, il y a une revendication qui est propre à toutes les assistantes sociales où qu'elles travaillent, c'est-à-dire que ce soit dans la fonction publique d'État, comme chez nous à l'éducation nationale, mais dans les autres ministères, ou à la territoriale, ou en hospitalière, c'est la reconnaissance à sa juste valeur de notre diplôme. Nous, on fait 3 années d'études qui sont reconnues depuis plus de 30 ans uniquement à Bac plus 2. Ce qui permet et ce qui a permis aux gouvernements successifs de nous enfermer dans une catégorie B dans la fonction publique, alors qu'on a un diplôme qui devrait relever de la catégorie A et on exerce des responsabilités qui relèvent de la catégorie A. Donc ça, c'est une revendication phare de la CGT Éducation et qui est interprofessionnel, on va dire. Les revendications propres au service social dans l'éducation nationale, c'est vraiment des créations massives de postes. Le service social à l'éducation nationale, c'est un peu un service moribond. On n'en est pas au point des médecins scolaires, de la médecine scolaire, mais on s'en rapproche.
Quand tu dis moribond, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de postes et maintenant, il n'y en a plus. Ou justement, c'est l'inverse.
Ouais, c'est-à-dire
il a émergé, mais il n'arrive pas à prendre son envol.
Non, ça veut dire qu'il y a eu un moment des postes qui correspondaient un peu plus, on va dire, à la démographie et aux populations présentes dans les établissements. Et que, voilà, avec la poussée démographique, il n'y a jamais eu de création de postes. Ça fait des années qu'il n'y a pas de création de postes.
Surtout qu'on est passé par une période où il y a eu des suppressions massives d'emplois ailleurs.
Exactement. Donc, il y en a eu chez les AS aussi. Il y en a eu chez les AS aussi. Alors, pas Aix-Marseille et pas à Paris, mais il y en a eu dans d'autres académies. Donc on est vraiment un service qui ne peut pas faire face à l'intégralité des besoins des élèves dans les établissements scolaires.
Dans les Alpes-Maritimes, moi je connais des assistantes sociales, en fait elles ont un service partagé. Elles ont 2 ou 3 établissements chacune et il me semble que c'est vraiment très difficile pour elles.
Alors c'est
pour elle d'ailleurs, parce qu'on n'a pas d'assistants sociaux.
Il n'y a pas d'hommes. On en a peu malheureusement, des hommes. Enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais bon.
C'est comme pour les infirmières tout à l'heure. Je disais, on dit toujours l'infirmière et l'assistante sociale.
On dit l'assistante sociale parce que c'est vrai qu'on est majoritairement des femmes. Donc oui, c'est une réalité. On est très partagé sur de multiples établissements. Les assistantes sociales, il y a tellement d'établissements et tellement peu de postes d'assistantes sociales que les rectorats nous saupoudrent un peu sur les établissements, ce qui fait qu'on a chacune à charge 2, 3, 4, ça va jusqu'à 5, 6 établissements suivant certaines académies, certains territoires un peu ruraux où vraiment les établissements sont très dispersés. Et moi, par exemple, je viens de l'Académie de Paris où on a quand même 25% des établissements du second degré où il n'y a plus du tout de service social parce qu'il n'y a pas assez de postes de support budgétaire. Et du coup, on a aujourd'hui plus de 30 000 élèves qui ne peuvent plus du tout accéder à un service social dans leur établissement scolaire.
Mais en fait, à quoi sert une assistante sociale dans un établissement scolaire ?
Une assistante sociale dans un établissement scolaire, c'est surtout et majoritairement de l'accompagnement à des élèves qui vivent des situations complexes.
C'est-à-dire ceux qui ont peu de moyens ? Alors, pour avoir une réduction à la cantine, une réduction pour les transports ?
Ça fait partie de ça. Mais ça, c'est l'aide financière, je pense que c'est vraiment la représentation qu'on a de l'assistante sociale, à l'éduc ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais vraiment l'aide financière. À l'éducation nationale, c'est vrai, mais c'est 10% de notre activité. Les 90% de notre activité, ça va être de l'accompagnement sur du moyen terme, long terme, d'élèves qui vivent des situations complexes. Ça peut être des situations familiales particulièrement douloureuses, ça peut être des conduites à risque, hein, des jeunes qui se mettent dans des situations dangereuses pour eux, des conduites addictives, des tentatives de suicide, et puis aussi des élèves qui sont vraiment en difficulté avec l'école, hein, avec la structure qu'est l'école, la manière dont est organisée l'école. Et ça, nous, c'est aussi des élèves qu'on reçoit parce que c'est des élèves qui se vivent vraiment en échec et avec lesquels on va essayer de
travailler. Mais ce n'est pas en étant quelques heures par semaine dans un établissement qu'on peut faire tout ce que tu décris.
Ben, on essaye de le faire du mieux qu'on peut. Clairement, on n'arrive pas, hein, ce que je te disais tout à l'heure, on ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins des élèves. Et on est obligé aujourd'hui de prioriser, de recevoir d'abord l'urgence et de faire passer d'autres choses qui pourtant relèvent de la prévention, ce qui est normalement une mission première pour les assistantes sociales à l'éducation nationale. Donc on essaie vraiment de répondre au mieux avec les moyens qu'on a, mais on est dans la frustration permanente. Si tu discutes avec des assistantes sociales, tu verras que c'est de la frustration permanente.
Parce que vous êtes comme les infirmières scolaires, c'est-à-dire que vous faites partie de l'équipe éducative en principe.
Oui, en principe, on en fait partie. Mais c'est vrai que tu soulèves un point important parce qu'on a tellement peu de temps de présence sur les établissements scolaires qu'on a presque du mal à prendre cette place dans les équipes. On a du mal à participer à l'ensemble des réflexions qui sont menées à l'échelle d'un établissement, alors qu'on pourrait vraiment amener quelque chose d'une autre. On a un autre regard, on a une autre formation qui est différente des équipes d'enseignants, de vie scolaire. Et ces différents regards sont complémentaires. Et malheureusement, du fait du faible temps de présence dans ces établissements, on peut avoir beaucoup de mal à amener ça et à construire une réflexion en commun.
En fait, finalement, une revendication pourrait être que pour lutter contre l'échec scolaire, il faut créer des postes d'assistante sociale plutôt que de créer des postes de prof.
Je pense que les deux seraient chouettes.
Je vais me faire des ennemis, je sens bien.
Non, je pense que les deux seraient chouettes, mais c'est vrai que les équipes sont demandeuses. Hein. Nous, les enseignants aimeraient. Hein. Et d'ailleurs, moi, je vois dans l'académie où je suis aujourd'hui, qui est l'académie de Créteil, et dans le département de la Seine-Saint-Denis, les enseignants se battent hein, pour avoir plus d'heures d'assistante sociale. Parce que oui, on apporte quelque chose que les enseignants ne peuvent pas faire, n'ont pas la formation pour faire et n'ont pas la possibilité. Et puis, ce n'est pas leur rôle. Et nous, c'est le nôtre. Et c'est des choses qu'on sait faire. Mais on ne nous donne pas le temps. Le ministère ne nous donne pas le temps et la possibilité de le faire vraiment. Donc oui, on pourrait répondre à l'échec scolaire en créant des postes d'AS.
Une autre question, c'était donc dans tes missions, il me semble que tu as l'éducation à la sexualité
ouais.
des jeunes. Et je pensais que moi, ça relevait du rôle des infirmières scolaires.
Ouais. Alors l'éducation à la sexualité, ce n'est pas en soi une mission du service social. En revanche, ça fait partie de la prévention. Et nous, on intervient dans tout ce qui est le champ de la prévention. Et l'éducation à la sexualité en fait partie. Alors c'est clairement une des prérogatives des infirmières scolaires. Mais c'est quelque chose sur lequel on intervient totalement en complémentarité. Et la plupart du temps, assez souvent, les interventions en éducation à la sexualité se font en binôme. Infirmière et AS. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on a des formations très différentes. On n'intervient pas sur les mêmes choses. Les infirmières vont énormément intervenir sur tout ce qui est développement du corps, puberté, la contraception qui est extrêmement importante, les IST aussi, comment se protéger des infections sexuellement transmissibles, les relations garçon-fille. Et nous, on intervient aussi sur cet aspect des relations garçon-fille, et puis sur tout ce qui est aussi le domaine, ce qu'on appelle le champ social de la sexualité, c'est-à-dire là où la loi intervient, là où la loi vient poser des interdits, donc tout ce qui est agression sexuelle, et nous on va prévenir et on va essayer de prévenir tout ce qui est agression sexuelle en informant les élèves, et puis essayer d'accompagner au mieux, parce que à la suite des séances d'éducation à la sexualité on a systématiquement des révélations d'abus sexuels, de jeunes qui ont vécu des abus sexuels et qui n'en avaient jamais parlé avant.
Et par rapport aux discriminations, alors, sexuelles ?
aux discriminations sexuelles. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, par exemple, énormément, beaucoup en séance d'éducation à la sexualité. Parce qu'on a affaire dans ces séances-là, nous, on leur laisse, c'est des moments vraiment de débat qu'on instaure dans les classes, et donc on leur laisse la possibilité d'aborder tous les sujets qu'ils souhaitent, de la manière dont ils le souhaitent. Nous, on est là pour encadrer et pour apporter aussi des éclairages. Et donc, cette question-là revient systématiquement. C'est des choses qui vont, par exemple, tourner autour de l'hymen. La question de l'hymen qui est souvent présente, moi, dans le département où je suis, la Seine-Saint-Denis, avec les filles qui vont dire l'importance, et les garçons aussi, l'importance d'avoir un hymen et pourquoi c'est important pour les filles d'avoir un hymen. Et là, on interroge directement la question de l'égalité homme-femme, femme-homme, des discriminations et pourquoi une fille doit être vierge et pourquoi un garçon ne doit pas être vierge. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qu'on aborde en éducation à la sexualité. On essaie de contribuer à notre manière.
Et ce genre de choses, vous le travaillez aussi en équipe avec les profs?
Alors, c'est là on arrive, on devrait le faire.
C'est toujours pareil.
On devrait le faire. Et je pense que ce serait vraiment intéressant de le faire. Et là, on arrive aux limites de notre emploi du temps éclaté. Et où on n'arrive pas, on a des difficultés à aller sur des domaines plus précis, tu vois, comme ça, vraiment. Par exemple, la lutte contre l'absentéisme, c'est des choses sur lesquelles on devrait monter des projets d'établissement. Et là encore, difficile, parce qu'on est là 8 heures dans la semaine, 8 heures par semaine. Qu'est-ce que tu veux faire en 8 heures par semaine?
Donc si jamais, monsieur le ministre, vous écoutez notre émission sur vos ondes, sachez qu'il faut absolument créer des postes d'assistante sociale dans les établissements du second degré de France. Et justement, maintenant qu'on a créé les postes, merci monsieur le ministre, on va peut-être passer à un projet, aux élections professionnelles et sur donc le champ, sur votre champ professionnel, vous en êtes où? En dehors des deux académies phares, ça je l'ai bien entendu tout à l'heure, ouais. Paris et Marseille. Est-ce que dans d'autres académies, vous pensez que c'est possible de déposer des listes?
Alors, on essaye, on fait tout pour, on essaye de porter ça. C'est vrai qu'on a ces deux académies phares qui essayent d'essaimer et qui essayent de porter ça dans d'autres académies. Moi, je viens de muter, donc j'arrive dans une nouvelle académie, l'académie de Créteil, où il n'y avait pas de vie syndicale pour les AS. Donc là, j'essaye de développer ça. On va essayer de présenter des listes au niveau académique. Et puis, comme je viens d'intégrer aussi un corps qui est le corps des conseillères techniques de services sociaux, on va aussi présenter une liste.
Qu'est-ce que c'est que
ce gros mot? Oui, c'est
non,
alors
pas
c'est
un gros mot, mais...
c'est une fonction, c'est un concours qui se passe quand on est assistante sociale et si on le souhaite pour encadrer. Ce concours conduit à deux types de postes, vraiment purement des fonctions d'encadrement hiérarchique. On peut être chef de service. Et puis ce que moi je fais, c'est-à-dire qu'une fonction intermédiaire entre la hiérarchie et les équipes de terrain. Et nous, on a ce rôle de conseil technique aux équipes, d'animation et de coordination d'une vie d'équipe. Et donc, c'est des moments où on essaie de faire vivre une équipe.
Mais ça ressemble fort au maillon intermédiaire que souhaitaient les infirmières.
Exactement.
Dans leur...
Exactement, c'est vrai que les
dans leurs revendications, elles veulent un cadre de santé qui coordonne. Donc en fait, ce serait ce cadre. Sandrine tout à l'heure en parlait en disant oui, mais chez les assistantes sociales, il y a ça.
Ouais.
Il y a
on a ce maillon intermédiaire. On a ce maillon intermédiaire qui est vraiment intéressant.
Qui n'est pas hiérarchique.
Qui n'est pas hiérarchique du tout. Et c'est vrai que les infirmières aimeraient bien. Que c'est porté en tout cas par la CGT, qu'on puisse créer ce maillon intermédiaire chez les infirmières.
En tout cas, merci Sandrine.
Karine.
En tout cas,
Sandrine c'est ma collègue infirmière, il n'y a pas de souci.
On travaille ensemble de toute façon.
Ouais.
Et moi, je suis ravie de savoir que la CGT Éducation a des orientations très claires pour les assistantes sociales et que, ma foi, tu es partie de cette équipe. Avec ce beau sourire et cette énergie, et je suis sûre qu'on va progresser dans ce corps-là.
On n'en doute pas.
Je te remercie beaucoup.
Merci à toi.